22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, 22h et c'est l'heure de Time Sport, votre quotidien sportif. 22h, 23h, on rappelle les horaires durant le mois sacré qu'est le Ramadan. On espère en tout cas que vous avez bien mangé, bien à l'écoute cette fois-ci de votre radio préférée, la radio de la diversité Beurre FM. Au menu de cette émission ce jeudi 21 avril 2022, on parlera de l'Olympique de Marseille qui fait encore patienter les Parisiens pour ce fameux titre, le 10e, on l'espère pour le grand Paris Saint-Germain de Neymar Junior, Messi ou encore Kylian Mbappé. Sans oublier la course à l'Europe pour les Rennais, les Strasbourgeois, les Niçois ou encore Monaco en Ligue 1 Uber Eats. N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous, notamment avec le débat du jour. Selon vous, qui est le meilleur président de Ligue 1 cette saison? Voilà, on vous donne la parole durant toute l'émission, 22h, 23h, le 01 53 48 3000. On accueillera dans cette émission les deux invités de prestige, Faba Kari Diatta et Joël Kouadja, justement, deux combattants MMA pour l'événement phare du côté de l'accord Hôtel Arena de Bercy à Paris le 6 mai 2022. Voilà, ils seront avec nous sur l'antenne de Beurre FM et sans oublier le fameux livre à remporter ce soir aux éditions Solar, 900 maillots de légende du cyclisme. Et oui, la grande boucle, on l'aime tant sur l'antenne de Beurre FM. On va essayer de s'attarder avec Jason sur l'actualité de la journée concernant ce JT Sport de Time Sport. On y va.
Time Sport. Bonsoir à tous, c'est parti pour les infos de ce jeudi. Nous sommes le 21 avril, il est 22h et nous n'avons toujours aucune nouvelle de la part de la FIFA concernant le match Algérie-Cameroun du 29 mars. Initialement attendu pour aujourd'hui, la réponse pour un éventuel match à rejouer n'a étrangement pas été dévoilée. Bien évidemment, un silence qui ne tourne pas en la faveur de nos chers Fennec. Une bonne nouvelle cette fois du côté de Manchester United qui désigne officiellement son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Il s'agit d'Erik ten Hag, le coach hollandais de 52 ans qui finira donc sa saison avec l'Ajax avant de rejoindre la Première Ligue jusqu'en juin 2025. Enfin, on termine avec du tennis et une décision qui fait grand bruit du côté du tournoi de Wimbledon où on a décidé d'exclure tous les joueurs russes et biélorusses de la compétition qui se déroulera du 27 juin au 10 juillet. Bien évidemment, la polémique enfle et les premières réactions s'enchaînent depuis 24 heures maintenant. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal Nenman et toute l'équipe Time Sport.
Merci Jason, notre rédacteur de la rubrique justement Tous les sports, et oui, qu'on retrouve chaque soir, Jason. Allez, on va s'attarder cette fois-ci avec toute l'équipe de Time Sport, la personne du coach Tollé, de Gian et sans oublier Sarah et Abdel. Bonsoir Sarah, comment ça va?
Bonsoir Abdel.
Bonsoir, c'est bien, Abdel. Voilà, bonsoir Abdel, bien sûr. Abdel, tu rends le voix. Bah, c'est bien. C'est parfait, Sarah. Sarah est sur la lune. Eh oui, depuis que Paris va décrocher sa dixième étoile. Ouais, pourquoi pas? Pas encore, mais sa première étoile peut-être. On sait même plus donner, où les donner, ces étoiles. Hein. Champions League, championnat, Sarah.
Ouais. Bonsoir Bilal, ça va très bien. Merci, et toi?
Eh ben, ça va très très bien. Quand je vois juste en face de moi Abdel. Comment ça va, Abdel?
Bonsoir à toutes et à tous, très content d'être là comme d'habitude.
Eh oui, on parle aussi de cette Coupe de France quart de finale, PSG Montpellier, handball. Et le PSG, pour le moment, l'emporte sur le score de 19 à 9. Diane est avec nous, ça va Diane?
Bonsoir à tous, ça va?
Ça va très très bien Diane. Bon, on va s'attarder, nous, directement sur le premier sujet de cette émission, qui n'est autre que l'Olympique de Marseille. Allez, on y va.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux. Le sujet
des sociaux. Eh oui, Marseille, second de ce championnat de Ligue 1 Uber Eats. 3-2 dans son antre qu'est l'Orange Vélodrome hier par l'intermédiaire à deux reprises de Dimitri Payet et aussi à Minarit. Petit clin d'œil à Boula, justement. Et après Giroto et Coco. Sans oublier aussi l'effort de ces Marseillais de continuer à y croire. Je ne sais pas en quoi, mais en tout cas, ils sont bien là en lice pour cette Coupe C4 européenne. Et aussi second de ce classement. Abdel, on t'écoute. Les Marseillais.
Ouais, c'est vrai qu'hier, Marseille a fait une bonne opération. Il y avait des confrontations directes, notamment entre Nice et Monaco et Strasbourg et Rennes. Marseille n'a pas raté l'occasion de prendre un petit peu d'avance. Ça a été un match un petit peu compliqué où Marseille a été mené par deux fois.
Ouais.
Et est revenu sur deux pénalties inscrits par Dimitri Payet. Maintenant, comme tu l'as si bien dit en introduction, c'est vrai que Amin Harit a donné la victoire à l'OM face à son ancien club. Dans cette fin de saison, tout le monde est important. C'est vrai que Sampaoli, de temps en temps, a eu des petits déboires. On n'a pas trop compris ce qu'il voulait faire. Là, Marseille a montré du caractère, a été solide jusqu'à la fin, chose que qui manquait un petit peu à certains moments de ce championnat. Et voilà, quand tu vois Harit qui marque à la fin, c'est tout un symbole. Plus des joueurs comme Gerson qui était mal parti en début de saison, il avait coûté cher. C'est vrai que l'adaptation devait être prise en compte, mais voilà, Marseille peut s'appuyer sur beaucoup plus d'individualité qu'en première partie de saison. Et à partir de là, je pense que hier, voilà, comme je l'ai dit, ils ont bien pris ce match et s'imposer leur permet de prendre de l'avance sur les concurrents qui les poursuivent depuis un moment et de creuser le trou.
Ouais, que c'est Olé, justement, cet Olympique de Marseille, Sarah, ça le fait sourire. Elle aime beaucoup Marseille.
Je reprends ce que dit Abdel.
Ouais, pourquoi?
Non, mais il y a eu un moment où on était en train de dire Sampaoli commence à faire n'importe quoi. Moi, j'ai plus le sentiment.
Ouais, il y a une époque.
Ouais,
il y a un moment, c'est vrai.
Sampaoli démission, sans oublier.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, t'entends ce type de discours, le gars il est deuxième. Tu peux avoir un, deux, trois matchs où t'es un petit peu moins bien, tout de suite on est en train de te dire mais pourquoi il le met à ce poste-là, on sait même pas ce qu'il veut mettre en place comme animation, parce que c'est vrai qu'il a peut-être une manière de voir, une manière du football peut-être différente des coachs que l'on a en France. Et en fin de compte, tu sentais, c'est mon ressenti, que dès qu'il y avait moyen de taper sur les doigts de Sampaoli, on se gênait pas. Moi j'ai le sentiment qu'on attendait justement le match où ils sont un petit peu moins bien pour tout de suite dire ah qu'est-ce qu'il fait nanana la conservation etc. À ce moment-là ton équipe elle est deuxième, faut pas oublier que l'équipe a été renouvelée à plus de 80%, ça on l'oublie encore. J'entends beaucoup de gens dire oui l'OM finira pas deuxième. L'OM est extrêmement solide, ils ont eu qu'une défaite sur les
pour le moment Marseille est là derrière le PSG.
Le PSG ce qu'ils font c'est extrêmement cohérent et à eux d'aller au bout, qu'ils en ont largement les moyens, ils sont les favoris pour finir derrière le Paris Saint-Germain.
Alors Abdel, ouais, on t'écoute.
Ouais, non, juste pour donner sur Sampaoli, c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant de consommer très très rapidement les entraîneurs, on veut qu'il y ait du résultat, du résultat directement, donc potentiellement quand on voit pas où l'entraîneur veut en venir alors que les supporters voudraient peut-être autre chose, on est tout de suite très très difficile. Et après, c'est pas quelqu'un qui s'exprime aussi forcément dans les médias, donc ça fait un peu tâche quelquefois, donc on n'hésite pas à tirer sur lui, mais au final, le temps lui donne raison quand même.
Oui, Sarah.
Moi, je suis d'accord, je trouve sur une bonne dynamique malgré leur défaite au parc. Après, je suis quand même. Ils ont là 6 points d'avance sur le trio Rennes, Strasbourg et Monaco. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est 6 points qui vont leur faire du bien parce qu'à mon avis, ils vont quand même avoir la tête à la Conference League. Donc c'est un petit
avantage.
Il y avait
déjà au parc, hein.
Ouais, je pense aussi. Ouais. Après, un classique, c'est quand même particulier. Donc dire qu'ils avaient
Il était assez particulier celui-là.
Ouais, complètement.
Ouais. Ouais, il était faux. On a vu Abdel aussi. Il dansait dans les tribunes. C'est pas qu'est-ce qu'il faisait. Ouais. Moi, je l'ai aperçu, Abdel.
Non, il jetait des cristallines sur Payet au corner.
Ouais. Non, mais il fallait voir Giovanni dehors aussi. Hein.
En réalité, tu fais le parallèle avec un sujet dont on parlera tout à l'heure. Mais Monaco, typiquement, ils ont su saisir l'occasion de gagner contre Paris, c'est 3 points qui aujourd'hui font la différence pour recoller au trio de tête. C'est vrai que Marseille, même s'ils ont 6 points d'avance, en ayant été un peu plus créatif et offensif dimanche, ils auraient pu ramener un meilleur score. Mais bon, en tout cas, là, c'est très bien ce qu'ils font. Là, si jamais ils finissent deuxième, ils vont Ligue des Champions.
Il y a confiance.
Et la conférence ici, ils continuent à
faire. Ils vont finir deuxième.
Bien sûr, mais c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect jeu, tu l'as dit, t'as Gerson, t'as des mecs qui sont en train de faire une grosse fin de saison, mais t'as cette confiance-là, c'est-à-dire que ce groupe-là s'est construit, là t'arrives, il reste 6 matchs, t'es en demi-finale d'une Coupe d'Europe, Marseille, on sait comment ça se passe quand il y a cet élan positif, et comme le dit Jens, pour moi, ils ont les armes, parce que plus que le jeu mental, ils sont prêts en tout cas à aller au bout, même si tu vas voir peut-être la Coupe d'Europe, quand t'arrives, il te reste 5-6 matchs, et tu sais que t'es quasiment au bout, et que t'es à Marseille avec ce que, voilà, on sait le peuple, tout ce que ça peut emmener derrière. Les matchs, tu les joues à fond.
Après, au-delà de ça, si je peux me permettre, finir deuxième, oui, effectivement, j'en doute pas, ils finiront deuxième, il n'y a pas de problème. Mais moi, la question que je me pose, c'est vraiment quelle Marseille on retrouvera l'année prochaine en Ligue des Champions.
C'est toujours
vraiment
ça.
Une question que je me pose, pour le coup.
Il y a pas mal
parce que
de
là,
personnes
effectivement, ils sont sur une bonne dynamique.
Alors
la Conférence League, très bien, pas de souci. Mais la Conférence League et la Ligue des Champions, c'est quand même un level au-dessus.
C'est pas pareil.
Donc je m'interroge vraiment sur.
Je pense que tu vas voir un autre Marseille la saison prochaine en Ligue des Champions.
Ah ouais, carrément.
Tu penses?
Après, ça dépendra aussi du mercato.
Ils sont là pour arriver.
Tu verras qui tu veux. Tu vas avoir un tout autre Marseille en Ligue des Champions.
Ouais, tu vois, il a des infos.
Très bien,
le coup. Va plus
devant
avec lui en week-end.
Il est venu avec sa boule de voyant.
Diane, vas-y. Oui, voilà le rachat de Marseille. Je sais pas.
Non, mais c'est ça. Non, je disais oui, peut-être qu'on verra un autre Marseille l'an prochain, mais tout ça, ça dépendra encore de la fin de saison et du mercato et du budget qu'ils ont pour pouvoir acheter ou changer certains joueurs. Il y a déjà quelques petits mouvements, des petites choses qui sont annoncées. Maintenant, moi, j'ai pas la même boule de voyant que Claude Tolly. Je sais pas ce qui va se passer.
J'ai pas de boule.
Ça fait sourire nos invités. Hein. Ça fait sourire nos invités. Oui, le coach Tolly. La boule de voyant.
Ah, ouais,
il est là.
Je maintiens.
Il est là, ben ça va, on verra bien.
Mais lâche-nous les dossiers.
Non, ah, bah, bien sûr.
Va voir à Marseille.
Lâchez-nous tous les dossiers.
Avec Diane, ambitions.
Sarah,
mais
coach,
oui, bien sûr.
Abdel. Rapide, Abdel, avant moment, la première pause.
Et ça devrait se concrétiser. Donc, on devrait avoir à Marseille une nouvelle dimension.
Claude, tu parlais de construction. C'est toujours il y a plein de joueurs qui sont en prêt, etc. Faudrait qu'ils restent pour pas justement qu'on soit à chaque fois en train de reconstruire par-dessus et de la nouveauté. Mais je pense que ce qu'a fait Longoria, c'est très intéressant parce que il a amené des joueurs prêtés, voir comment ils s'acclimatent, comment ils s'adaptent.
Potentiellement,
je pense que ça va.
Merci.
On va
revenir sur le football français. Ne vous inquiétez pas concernant la Ligue 1 Uber Eats, sans oublier nos deux combattants qui sont bel et bien avec nous dans ce studio de Beurre FM. Et oui, Jean-Pierre Molintin, c'est pas bon. Aïe, 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 c'est l'effet. Il y a de bons bébés ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Soyez à l'écoute. On revient rapidement.
Time Sport revient dans un instant. 22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour, voilà, dans la joie et la bonne humeur, toujours en live. Il est quelle heure? Il est 22h16 avec Diane, notre consultante, sans oublier Sarah, le coach Tolé et Abdel, le numéro du téléphone, le numéro de la radio, oui, le son d'art, excusez-moi. Ça va pas, c'est le ramadan, ça va pas, Diane, ça la fait rire. Ok, tu peux. Le 01 53 48 3000. On vous fait remporter, allez, de magnifiques livres aux éditions Solar. Voilà, 900 maillots de légende du cyclisme. Ben ça, petit clin d'œil à Marie, grande amoureuse, voilà, de cette grande boucle qui est le Tour de France. Mais nous aussi, allez, on aimerait réagir avec vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM, avec le débat du jour. Selon vous, qui est le meilleur président de Ligue 1 cette saison? Le coach Tolé a la réponse, même Sarah. Mais nous, on va s'attarder cette fois-ci, allez, sur nos invités de ce soir. C'est parti.
Time Sport. The special one, the special one.
Ah, le magnifique sourire du coach Tolé. Hier, on a pu l'apercevoir aussi sur les antennes de nos confrères TFX. C'est bien ça, le coach Tolé, hein?
C'est bien ça.
Eh ouais, c'est bien ça, le petit passage de pub oblige pour le coach Tolé.
Ouais, on se met.
Hein, c'est ça, Le 6 mai, justement, on va le retenir. Fabakary Diatta et aussi Joël Kouadia, deux combattants MMA qui sont avec nous et nous font ce privilège de nous assister dans cette émission qui est Time Sport. Et oui, l'événement à venir du côté de l'Accor Hotel Arena, ce 6 mai 2022, ça sera le Bellator. Voilà, Bellator, c'est assez quelque chose de fun, assez sympa, incroyable même, et qui fait son petit chemin. En tout cas, on va en reparler aussi parce qu'on a eu pas mal de réactions, notamment des messages eus sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de l'émission. Mais nous aujourd'hui, ce soir, messieurs, on aimerait s'attarder sur cette préparation de ce fameux tournoi. Bonsoir.
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 Comment allez-vous?
Ça va.
Ça va très très bien. Ouais.
Ça va très bien, vous.
Nos pressions. Non, nos pressions à l'approche de ce grand tournoi, de cette affiche en tout cas, pour vous. Non, allez, Joël.
C'est passé.
Ouais, c'est passé.
À l'annonce, oui. Ouais. On a la petite pression à l'annonce, mais après, avec la prépa qui suit, on est d'attaque, on est prêt. Hein.
Et justement, comment se prépare-t-on à un match de telle envergure? Parce qu'il faut le rappeler si bien, tout de même, le Bellator, c'est la ceinture la plus chère comparée à celle même de l'UFC. Ce n'est pas rien. Ouais.
Ouais, oui, apparemment, oui. Enfin, j'ai su ça il n'y a pas très longtemps. J'en suis pas là encore.
Vous n'en êtes pas là.
On est tout en bas.
On est tout en bas.
Moi.
Ouais, pour vous. Ouais. Mais justement, peut-être cette adrénaline, ce côté, cette pression à venir. On est devant son public. On est en France. On est là. L'Accor Hotel Arena. Oui, mais quand même, c'est quelque chose, quoi, de démentiel.
Exactement.
Ouais. C'est pas rien.
C'est un format vraiment, un grand format. On a l'habitude de faire des 100% fight sur Paris, donc le public est toujours avec nous.
Ouais.
Mais dans une salle aussi immense, là, non, pas encore. Là, ce sera sur le temps, on va découvrir les émotions, tout ça, tout ça.
Et bon, on l'espère. Fabakary. Et vous?
On va dire, j'ai...
Alors, cette préparation aussi, le mental qu'il faut avoir.
Ça va.
Ouais.
On va dire.
Assez serein, vous deux, ce soir. Mais nous, ça va aussi. Pour le moment, ça va. Non, mais je suis sérieux. Il n'y a pas de moquerie, hein, vraiment. Je ne pique pas, mais c'est assez. Voilà, on est toujours comme ça, peut-être. C'est, même dans la boxe, on a cette tendance à aborder la chose assez lentamente.
Ouais, bon, pour moi, pour ma part, j'ai eu le stress, on va dire, au tout début.
Ouais.
Lorsqu'on m'annonce l'adversaire, et petit à petit, avec les entraînements, j'oublie un peu. Et quand j'arrive à la dernière semaine, c'est là où le cœur commence à monter.
Ça commence à monter, justement. Nicolò Soli, c'est l'adversaire de Joël, c'est bien ça,
yes,
hein. Les talons italiens, un peu le Rocky Balboa pour vous. Hein, ça sera ça. Ouais.
Ouais, on va chercher à rester debout le plus possible et le mettre dans le flou. Hein.
Le mettre dans le flou, comment ça se passe justement? Cette question, on l'a à chaque fois pour... voilà, c'est nos auditeurs, nos auditrices qui nous la posent. Est-ce qu'on a peur dans la cage, réellement?
Non.
Le public, ouais, quand on la ferme, cette cage, justement.
On a cette pression,
ouais.
Mais c'est la bonne pression, c'est le bon stress, quoi, qu'il arrive.
Ouais.
Et une fois que l'arbitre donne le go, tout s'efface et on y va. Hein. On fait ce qu'on sait faire.
Ouais.
Ouais.
Babacary, face au Britannique, justement, que vous allez rencontrer. Britannique, bon, Italien, on n'en voit pas trop. J'ai rien contre les Italiens. Mais c'est plutôt. Non, mais vraiment, dans la MMA, allez, c'est plutôt, on va dire, les British. Un peu les Allemands, les Hollandais, les Belges. Bon, nous, Français, les Américains. Après aussi, les Brésiliens. Bon, je me rappelle aussi les temps du Prade ou du Kawan avec Jérôme Le Banner. C'était un autre temps avec Ignacio Fedor. Mais vous, comment appréhendez-vous ce combat, justement, face à une pointure telle que Jordan Barton, l'ancien joueur de l'OM?
Ouais, je le prends très bien. Pour ma part, c'est un adversaire comme les autres. C'est
juste
que je dois faire attention, comme tous les combats, en fait.
Abdel, ouais. On poursuit. Babacary et Joël, avec nous ce soir. Alors,
tu disais que, dans une conférence de presse, en gros, que le Bellator, c'était un peu la récompense du travail fourni. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver au Bellator et comment toi, tu y es arrivé, justement?
Alors, pour ma part, moi, je m'entraîne à fond. Et je fais pas attention au reste. Après, s'il y a des événements comme ça qui me tombent dessus, tant mieux. Moi, je me suis entraîné dans mon coin à fond. Des gens avaient l'œil sur moi. Après, ils m'ont senti prêt et ils m'ont proposé. Ou je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais voilà quoi.
Alors en fait, il faut savoir que les combattants comme ça, eux, leur taf, c'est de s'entraîner et d'être prêt. Si jamais ils ont une échéance derrière, il y a quand même toute une organisation. Il y a leur team qui est à la Hatch Academy où ils s'entraînent.
Qui nous passons le bonsoir.
Voilà. Et il y a également des agents. Et en fait, c'est l'agent qui est derrière. Pour Baba et Joël, c'est le même agent, c'est Razi qui s'en occupe. Et c'est lui qui va proposer les profils aux différentes organisations. Alors, une organisation comme le Bellator, elle est implantée en Europe depuis un certain temps déjà, avec notamment des événements en Angleterre, mais également des événements en Italie. Il y a eu énormément de Bellator en Italie. Un autre combattant qui est sur la carte, Greg Babin, avait notamment combattu en Italie. Et en fait, eux, ils sont pas toujours forcément au courant de ce qui se passe en dessous. Ils vont l'être au moment où on va leur dire, on a telle ou telle proposition. Mais pour pouvoir proposer un tel profil à une organisation comme le Bellator, il faut déjà avoir fait un certain nombre de combats. Et il faut aussi avoir fait des combats spectaculaires. Il faut savoir que Joël, par exemple, c'est un combattant qu'on n'arrive plus à faire combattre en France face à des combattants français.
Bien sûr.
Parce que c'est un mec qui met des KO très très vite, très rapidement.
Ouais, c'est tranquille ce soir avec Joël. On aura compris. Joël, tranquille.
Assez spectaculaire.
Ouais.
On peut dire ça.
On le met devant.
Ils ont peur de lui.
Ouais.
Il y a un peu de ça. Donc du coup, c'était de très bonne augure.
Voix, mais... moi, je le dis. De toute façon, je suis pas dans la cage.
Il va pas avec lui.
On attendait depuis très longtemps une organisation comme le Bellator pour Joël. Donc c'est plutôt bien. Et Baba, lui, est déjà en contrat avec le Bellator. Donc il a un contrat de 5 combats. Et là, ce sera son 3e combat.
C'est ça. Sarah, allez, une réaction. Alors, et aussi Abdel.
Moi, je suis pas du tout spécialiste MMA, mais du coup, comment vous faites pour vous préparer à un tel combat? Puisque, visiblement, le Bellator, c'est pas rien. Donc, comment vous faites en quoi consiste votre préparation?
Alors, dans un premier temps, les coachs analysent l'adversaire. Et après, par rapport à ce qu'ils ont vu, ils appliquent certains trucs à travailler. Si c'est un lutteur, on va chercher à rester à distance, travailler la lutte pour le contrer. Si c'est un mec du sol, on va tout faire pour rester debout. Ou si on arrive, si par malheur on est au sol, chercher le plus vite possible se relever. Et si c'est un striker, on analyse vraiment en profondeur comment il boxe et on trouve les failles.
Ok.
Oui.
Donc Abdel, en fait, on poursuit. Alors pour
Diane. Allez, vas-y, Diane.
Un combat, en fait, ça se prépare. Une préparation au combat, il faut au minimum 2 mois. Voilà, on dit qu'il faut en général à peu près 2 mois pour préparer le combat, donc ils s'entraînent quand même tous les jours. Et à 2 mois du combat, on va basculer à 2 entraînements par jour, certaines fois 3, avec un entraînement de prépa physique en matinée et les entraînements le soir qui vont être un petit peu plus spécifiques et qui vont être orientés. Il y aura des entraînements MMA, il y aura des entraînements de lutte, il y aura des entraînements striking. Et en fait, on va mêler tout ça. Et un combat, ça se prépare minimum 2 mois à l'avance. 3 mois, c'est l'idéal, mais très souvent c'est 2.
On t'écoute.
Je voulais poursuivre. Alors, sur ce qu'elle disait, Foubakari, il avait signé déjà avec le Bellator depuis un moment. Pareil, c'est une déclaration que j'ai vue. T'as dit que tu voulais être champion du Bellator avant tes 30 ans. Et justement, est-ce que, hormis le travail et la détermination, quels ingrédients il faut pour atteindre cet objectif, comme tu l'as cité?
Comme tu l'as dit, un travail acharné. Un travail acharné pour arriver à ce niveau. Aussi des sacrifices. Parce que.
Quoi ?
Le temps.
Le temps. Par rapport au travail aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir un travail à temps plein pour arriver à. Pour ma part, moi, je pense pas qu'on peut arriver à un tel niveau avec un travail à temps plein. Parce qu'il faut au moins minimum 2 entraînements par jour.
Ah ouais, quand même.
Et après, sacrifice, on veut dire au niveau de la nourriture.
C'est moi qui gère leur diète et leur préparation physique. Donc ils font attention quand je suis à côté. Ils font pas trop de bêtises.
Ouais, le coach JN.
Ils respectent quand même ou pas?
Oui. De toute façon, ils n'ont pas d'autre choix que de respecter s'ils veulent performer. Ça c'est sûr. Mais ce que disait Baba, c'est très important. Alors, en fait, c'est en France, on a encore du mal à être professionnel quand on est combattant de MMA.
Ouais.
Et ils sont obligés de travailler à côté. Ouais. Un peu moins dans la boxe parce que les primes sont moins importantes. Mais
qu'ils n'étaient pas. Oui, ça se ressemble un peu, Diane, quelquefois.
Oui, ça se ressemble. Ouais. Ça se ressemble, mais les primes sont pas suffisamment importantes pour pouvoir. Et là, on sort en plus de plusieurs années Covid.
Ouais.
Donc, du coup, au niveau des organisations. Il y avait très peu de combats parce que normalement ils combattent 3 à 4 fois dans l'année et là en 2 ans ils ont combattu à peine une fois.
Ouais, c'est pas bon pour eux.
Ouais.
Ouais, Abdel, on poursuit.
Justement,
on a pas mal de questions encore.
Une question pour tous les deux, c'est il y avait un engouement autour du MMA quand ça a été entre guillemets officialisé en France. Malheureusement, il y a eu le Covid qui est passé par là. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un peu moins d'enthousiasme qu'auparavant. Est-ce que vous le ressentez de la même manière ou comment vous pouvez expliquer ça?
Joël.
Les gens en parlent moins parce que maintenant c'est quelque chose qu'on voit, qui est réel, qui se fait maintenant. C'est-à-dire, ils en parlent moins. Avant on en parlait parce qu'on le voulait, maintenant il est là, on arrête un peu d'en parler, on le fait. C'est-à-dire le fait qu'on puisse organiser du MMA en France, c'est le top, hein, c'est le top. Hein.
Ouais. On le voulait justement.
On demandait pas plus.
C'est vrai. Bakary, pareil concernant cela.
J'aurais dit. Si
les spectateurs, l'affluence, bon, ça se passe aussi, les gens qui sont là,
ça dépend parce que les gens par rapport à avant, c'est que quand ils disaient MMA, ils se référenciaient à l'UFC.
L'UFC, justement, on va en parler de l'UFC.
C'est ça le souci, c'est que maintenant que le MMA est légalisé en France, quand on dit aux gens oui, il y a un gala de MMA, les gens ils disent ouais, si c'est pas l'UFC, ça sert à rien, entre guillemets,
c'est vrai.
À part les
connaisseurs,
ils vont aller.
Il y en a qui le pensent comme ça. Ouais. C'est pas faux.
Après, je pense que aussi, à part les connaisseurs, il y en a peu qui savent faire la différence entre le MMA et l'UFC.
Exactement.
Enfin, moi, par exemple, je me reconnais. Hein,
pour avoir discuté avec les organisateurs du Bellator, c'était un peu le gros challenge du Bellator face à cet événement à Bercy, parce qu'ils se posaient la question de est-ce qu'on refait un événement en France ou est-ce qu'on ne refait pas un événement en France. Et en fait, ils voulaient avoir une carte qui allait et d'une part satisfaire
La carte du CIMA.
Voilà, ceux qui connaissent le MMA, mais ils voulaient aussi avoir une carte où ils allaient pouvoir attirer des personnes. personnes qui ne sont pas forcément connaisseurs de MMA et qui vont venir pour le show. Le Bellator, c'est un énorme show à l'américaine. Donc c'est un peu comme l'UFC, comme la NBA, c'est vraiment des énormes shows. En France, on n'a pas l'habitude de voir ça. Pour avoir fait également les déplacements sur les combats de Tony Yoka, ça n'a rien à voir. C'est le Bellator et comme l'UFC, qui on en reparlera tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez assez extraordinaire. Et cette carte, elle se voulait un petit peu dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a Che Kongo qui est là. Donc Che Kongo, il y a beaucoup de Français qui ne le connaissent pas et qui est pourtant le combat principal. Donc c'est un rematch parce que le dernier combat, si je dis pas de bêtises, ça s'était terminé par un no contest parce que Che avait pris un doigt dans l'œil. Et en fait, Che Kongo, c'est un des combattants français les plus connus à l'étranger. Moi, quand je faisais des entraînements à Montmartre avec lui dans les escaliers, il y avait des Chinois, des Américains qui s'arrêtaient pour le prendre en photo.
Au Sacré-Cœur.
Au Sacré-Cœur. Et personne ne le connaît en France. Et en fait, c'est un des combattants français qui s'est exporté très très tôt au niveau du Pride, comme tu en parlais tout à l'heure.
Ouais.
Et de l'UFC, donc ça c'est aussi un vétéran de l'UFC et qui combat aujourd'hui au Bellator. Et Sheik, c'est censé être quelqu'un qui va ramener quand même beaucoup de monde.
Fabac Arediata et Joël Kouadja restent avec nous, rien que pour vous, chers auditeurs de Beurre FM. Une courte pause, la dernière, avant de revenir avec nos invités, toute l'équipe de Time Sport.
Time Sport revient dans un instant. 22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, 22h31, toujours en compagnie de Giovanni à la réalisation que vous pouvez retrouver dès ce soir 23h avec Vanessa jusqu'à 1h du matin, sans oublier nos deux consultantes d'IN et aussi Sarah et le coach Tolé et Abdel sont avec moi, sans oublier nos deux invités, Fabakari Diata et Joël Kouadja, justement deux combattants MMA qui seront réunis pour l'événement du 6 mai 2022 du côté de l'Accor Hotel Arena à Paris avec ce fameux tournoi qui est le Bellator. Alors on va revenir avec eux justement sur ces combats mais aussi sur cette approche de la Ligue Nord-Américaine qui est l'UFC.
Time Sport.
Eh oui, Diane, on a des petites infos nous aussi, pas que dans le football. On a des infos aussi.
Je vois ça.
Eh oui, ben nous t'écoutons et après on va écouter nos deux grands champions.
Alors c'est vrai que cette semaine il y a eu une info qu'il ne fallait pas louper, c'est l'annonce officielle de l'UFC qui devrait débarquer en France autour du 3 septembre. Alors pour l'instant on n'a aucune info sur la carte. La fight card n'est pas encore présentée. On s'attend peut-être à avoir un Cyril Gane parce que Francis Ngannou, je pense qu'il ne sera pas rétabli de sa blessure. Donc peut-être un Cyril Gane. J'espère qu'il y aura des jeunes rookies français aussi qu'on va pouvoir mettre en avant.
Tout cœur.
Après voilà, l'UFC, le Bellator, ce sont les deux organisations qui sont vraiment en compétition dans le monde. D'ailleurs, le Bellator a décalé ses combats le vendredi pour ne plus qu'ils soient diffusés les mêmes soirs que ceux de l'UFC.
C'est ça.
Mais il faut savoir quand même que l'UFC et le Bellator, pendant le Covid, ce sont les organisations de sport qui ont fait le plus de pay-per-view et le plus d'argent.
Hein. Ouais.
Parce qu'ils ont organisé, ils ont continué à organiser des combats.
Toujours, ils n'ont pas arrêté.
Voilà, malgré le Covid et que les salles soient à huis clos, l'UFC avait acheté une île à Dubaï. Ils avaient fait des organisations là-bas. Le Bellator avait continué à organiser en Europe. Mais voilà, la grande nouvelle, c'est l'UFC le 3 septembre. Mais avant ça, on a quand même nos deux combattants qui seront le 6 mai à Bercy pour une première pour Joël et le troisième combat de Baba.
C'est ça. À s'habituer, peut-être.
Du coup, tu lui donnes
pas.
Des conseils, j'imagine, ouais. Parce que c'est ta troisième fois.
Alors, ça
et
va.
Tu
conseille-moi, Baba. Ouais.
Ah, franchement.
Non, mais j'imagine que vous aidez.
Ouais, bien sûr.
Ouais, Joël, c'est déjà dans le combat, Joël.
Après, moi, je pourrais pas le conseiller à part au public, parce que moi, j'ai toujours combattu en début de carte, ou même la première fois quand le Bellator était venu à Paris, il y avait à peu près 1000 personnes. Donc, Bercy n'était pas rempli. Là, Bercy va être rempli. Là, sur le coup, je peux pas l'aider. Là, je sais pas du tout comment ça va se passer.
Je suis la 15e merde.
Ça
va bien se passer.
Ouais, ça va bien se passer. Hein. Tant qu'on est dans le combat et tant qu'on n'essaie pas de regarder autour de nous. Ça va bien se passer.
Joël, on a une réaction de Nordine qui nous dit, je sais pas, il a dû googaliser, Joël, Fabakari Diata, il a un visage d'ange, Fabakari. Non, mais vraiment. Comment fait-on pour en être un combattant MMA? Il est assez joyeux. Ouais, je sais pas. Non, mais vraiment. Non, ah ben oui, tu sais, non, ouais. Forcé, un peu à la Krilin ou à la Sangoku, tu vois. Non, mais vraiment. Mais ça, c'est cool, justement. Et tu vois, tu rentres avec lui, 10 secondes plus tard, c'est le carreau.
C'est comme ça qu'on reconnaît les bons combattants, que ce soit en boxe ou ailleurs, c'est qu'ils ont toujours un visage angélique et pas de cicatrices. Ouais, ça, ce sont de vrais bons combattants.
Ouais.
S'ils ressemblent à des gremlins,
On n'a pas de réaction là concernant Joël parce que j'ai pas envie qu'on l'embête. Lui là, c'est serein. Joël. Abdel peut-être avec le coach Tolé justement à l'approche de cette ligue nord-américaine qui est l'UFC, peut-être pourquoi pas nos deux combattants d'y participer dans un futur très proche en France.
Ils sont ils vont être sous contrat avec le Bellator, ça va être compliqué.
Ah ben là ça va être très compliqué, oui. Ah, de se prononcer peut-être. Non,
c'est délicat.
Ah, c'est délicat.
C'est délicat, okay. Mais tout le monde voit l'UFC comme une finalité en soi, mais il y a énormément de ligues et d'organisations qui sont beaucoup plus intéressantes que.
On a le temps d'intégrer.
Voilà, on a le temps d'intégrer. Il y a le KSW, par exemple, en Europe qui cartonne. Il y a Arès en France qui fait quand même de belles choses. Et l'UFC, si c'est l'intégrer pour être sur un combat préliminaire avec à peine 2000 euros de prime, c'est pas intéressant, en tout cas pour eux. Ils voient autre chose, ils voient plus grand, et s'ils intègrent l'UFC, c'est quand même pour une meilleure place qu'un premier combat en ouverture d'un UFC Fight Night qui serait même pas un UFC avec beaucoup de vues.
Exactement. On combat à Paris, la famille, les amis, la pression encore plus. On en parlait en début d'interview, messieurs, Joël, Fabakari. Ouais.
Pour ma part,
non.
Pas, on va dire oui et non.
Oui et non. Diane est là pour ça. La préparation, c'est elle qui s'en occupe. Hein. Ah ouais, c'est vrai, de vous faire oublier cette pression.
Ouais, parce qu'en fait, pour moi, c'est que moi, je me dis que si ma famille accepte de venir, c'est-à-dire qu'ils veulent me voir combattre, et si je me prends, exemple, hein, je me prends un mauvais coup, on va dire c'est les règles du jeu.
On l'espère pas.
Mais bon, j'oublie en fait. Moi, quand je suis dans mon combat, même ma mère me dit
on y va.
Ça sert à rien de regarder à côté. Reste dans son combat et le public.
On oublie tout.
On oublie tout.
Oui, Joël.
Ouais, la plupart du temps, dès qu'on rentre dans la cage, tout s'éteint. Même l'arbitre, on ne le voit plus.
Ouais.
On voit que l'adversaire et bam.
On entend le coach, on entend peut-être l'ami juste à côté. Non, vraiment. Oui, on la pose toujours. C'est des questions peut-être récurrentes. Mais voilà, qui on veut entendre aussi? À un moment, on ne veut plus entendre le coach. Allez, c'est bon, je m'en fous du coach. Non, et j'y vais. Mais Jeanne, vraiment, ma réaction, elle est toute simple. Moi, je suis journaliste, je me dis, allez, c'est bon, j'écoute plus personne et j'y vais.
Mais c'est pas bon.
C'est pas bon. Ouais. Non, mais c'est pas bon.
Le game plan.
Quelques secondes, c'est pas ça. Il faut vite revenir au combat.
Les coachs qui sont à l'extérieur, ils ont une vue extérieure du combat. Donc, ils sont là pour ramener le combattant dans son game plan. Donc, il vaut mieux bien écouter le coach qui est dans le coin.
Oui. Sarah, le coach Tolé, ou encore Abdel. Peut-être une réaction. Abdel, non, ils ont tout dit.
On a plein de choses. Ouais. On va pas trop amener d'informations. Petit à petit, on va découvrir.
Alors, on passe à la démonstration.
Ouais, la démonstration, ouais. Ça sera fait le 6 mai 2022. Voilà, ça c'est promis avec nos deux grands champions. On le rappelle, Fabakari Diatta et Joël Kouadja. Justement, ils restent avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va aller au dernier sujet de l'émission qui est Time Sport.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, la course au titre, Sarah. La course au titre entre, l'Olympique de Marseille, il y en a qui osent dire, mais non, c'est le PSG qui remportera ce fameux titre 2021-2022, n'est-ce pas, le coach Tolé? Mais la course à l'Europe pour les Rennais, les Strasbourgeois ou encore les Niçois et les Monégasques. Sarah, tu en penses quoi? C'est vrai, tout le monde est derrière Marseille, hein?
Moi, je vois bien Monaco refaire le coup de l'année dernière. Après, pourquoi pas Strasbourg?
Les Strasbourgeois.
Allez,
ils aimeraient avoir une finale, hein, du côté du Vélodrome pour le dernier match, je crois. Comme un peu le OM PSG. Oui, Abdel, d'accord avec ça?
Ouais, non, en réalité, c'est Monaco qui est sur la meilleure série. Ça fait 5 victoires en autant de matchs. Il y a eu un changement de coach qui est arrivé. On n'avait pas forcément compris parce que Niko Kovac faisait du bon boulot. C'était plus avec la gestion des hommes que c'était compliqué, mais sur le terrain c'était plutôt intéressant. Et un peu comme Marseille, à Monaco, il y avait des joueurs sur lesquels on s'appuyait qui étaient un petit peu en dedans. Et là le retour notamment de Fofana au milieu qui vient suppléer un peu Tchouaméni qui avait brillé sur les derniers mois, et même le fait que Kevin Volland soit de retour. Je pense qu'il y a une possibilité pour que Monaco viennent embêter. Après, comme le disait Claude tout à l'heure, plus tu fais une série de victoires, plus tu te rapproches d'une défaite. Mais voilà, après, concernant Strasbourg, comme ils n'étaient pas prévus pour être là, t'es décomplexé, t'es libéré. Et au final, après, c'est quand même quelque chose qui les anime parce qu'ils ont connu la galère. Je parlais de président tout à l'heure, mais Marc Keller c'est un très bon, un très très bon dirigeant, un très très bon président. Et ce qui fait là, c'est que voilà, l'arrivée de Julien Stéphan a changé pas mal de choses, parce que il y a une ossature qui s'est créée, et tout le monde, tout le groupe est soudé autour de lui. C'est des victoires qui sont faites par la plus petite démarche, mais à chaque fois, voilà, c'est très intéressant. Là où on peut voir des équipes en difficulté, je pense que c'est Nice, parce que sur les 5 derniers matchs, ils ont joué 3 fois contre des équipes du top 7 et ils ont pris qu'un seul point sur 9 possibles, donc c'est très très compliqué. Et après Rennes, parenthèse, c'est vrai que Bruno Genesieux, là où il est, c'est vrai qu'il y a des manquements, mais le fait de l'avoir fait venir, c'est un formateur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de jeunes dans son effectif. Aujourd'hui, il est troisième ou quatrième. C'est très important de le voir. Il a mis 70 buts. Je pense que la faille peut être un petit peu défensive, mais en tout cas, on est dans un championnat qui est très ouvert, parce que là, on parle des trois, mais il y a Lens qui est derrière aussi avec 53 points. Donc potentiellement, ça laisse une bonne fin de championnat à 6 journées de la fin. Et on s'est jamais autant régalé que depuis cette année.
Revenu à hauteur de Rennes, hein, troisième. Strasbourg ne se fixe pas de limite, peut-être en cette fin de saison, Sarah, à l'instar de Dimitri Liénard, on va dire taulier quand même de cette équipe strasbourgeoise depuis 2013, le coach Tollet.
Symbole, Liénard, qui a connu le national avec Strasbourg. Faut pas oublier que
descendu,
qu'il était au bord du dépôt de bilan il y a quelques années. Comme quoi les clubs historiques ne meurent jamais, ils sont portés par cet engouement, cette passion qui existe du côté de l'Est de la France. Quand ils aient joué même en CFA, t'avais 25-30 000 personnes lors de derby. Strasbourg, c'est 11 matchs sans défaite, hein.
Ouais.
On n'en parle pas, c'est 7 défaites simplement.
Attention à Marseille pour le dernier match.
Non, mais après je pense qu'il veut dire surtout par là, c'est au-delà de jouer l'OM, c'est surtout que pour Strasbourg, t'as cette possibilité d'aller accrocher peut-être une place on va dire probablement en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, ce serait extraordinaire.
Devaney aussi l'espère.
C'est pas le club dont on parlait. T'as Rennes, t'as Nice, Gatti, c'est vrai que là c'est un peu plus compliqué, mais ce serait bien de voir la belle surprise Strasbourg. Je signerais, mais je sens quand même moi Monaco finir très fort. Ils ont quand même tapé Marseille, le PSG, Rennes, Lyon, tout le monde, tous les gros là sur les matchs retour. Donc je les sens finir très fort, les Monégasques.
Bah, moi je me demande, enfin tu parles de Nice avec Galtier, c'est vrai que ça a bien débuté et je me demande si on l'a pas un peu trop. À mon humble avis,
voilà, c'est pas bon, là.
Surestimé. Et là, on est sur
Galtier,
une.
Comme elle le disait. Ouais.
Non, enfin, le.
Ce Galtier, ça fait 7-8 ans qu'il a des résultats.
Oui, non, mais bien sûr. Mais enfin, je veux dire, au début, il y avait cet engouement autour de.
Je pense que tu as vu, ça, c'est. Ils ont fait ce résultat en Coupe de France contre le PSG. Ils tapent Marseille en Coupe de France. Et c'est vrai que depuis.
On est un peu sur la pente descendante.
Ouais, et puis j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, on les a eu peut-être trop beaux. Trop vite, c'est un groupe qui est quand même relativement jeune et qui a du mal peut-être à digérer cette attente-là. Au moment où on les attendait, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué pour Nice.
Mais après il y a aussi, tu parles de la Coupe de France, quand tu es dans un nouveau projet comme celui de Nice aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est tout récent, il y a aussi pas mal de jeunes joueurs, il y a la finale de Coupe de France qui arrive. Potentiellement, tu peux déjà te projeter si tu t'es vu dans le bon wagon pour jouer les places européennes. Donc à partir de là, je pense que voilà, aussi il y a depuis le début de l'émission, je parle de joueurs qui sont dans un temps fort. Quand tu vois qu'Amine Gouiri n'a pas marqué depuis 3 mois et que c'est un peu le fer de lance de l'équipe, c'est un petit peu compliqué. Donc à partir de là, je pense que voilà, il y a des clubs comme Strasbourg, comme Nice qui sont pas dans, c'est pas la même façon de voir les choses, mais il y en a qui sont au début d'un projet, d'autres qui sont peut-être pas les moyens financiers, mais une quatrième ou une cinquième place, ce serait beaucoup plus valorisant que d'aller chercher une troisième ou un tour préliminaire de Ligue des Champions et de se faire sortir, parce que on sait que ça peut jouer mentalement pour non, mais l'aspect financier est là, mais pour les saisons précédentes, quand t'as fait de bons parcours et que tu sors rapidement, c'est vrai que si tu te qualifies, t'as du mal à sortir un peu de cet engrenage. Mais je pense que voilà, Strasbourg est tellement décomplexé, et tu disais les 11 matchs sans défaite, ils ont beaucoup plus de réussite contre la première partie de tableau, ce qui fait que jusqu'à la fin de la saison, potentiellement, ils affrontent des équipes d'un premier parti de tableau et ils auront la chance de faire des différences. Et je pense qu'il y a une potentialité pour qu'ils arrivent troisième aussi.
Oui, carrément. Sarah. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi, Sarah.
Moi aussi.
Il a dingue rigolé. Les Niçois, c'est parti en live un peu.
Ouais. Moi, je vois plus.
Kamel n'avait pas tort avec Fala.
Moi, je rejoins l'analyse de Sarah. Et Moi, je vois plutôt Monaco sur cette fin de saison.
Ouais. Ouais. On parlait en début.
Contre les gros.
On en parlait quand même très fort avec Mourad, Terence aussi.
Un public extraordinaire à Monaco, donc je les vois pousser par leur public.
Ouais, faut pas. Monaco est là.
C'est le public le plus important à l'extérieur. Attention, hein,
le tu rigoles.
C'est Monaco qui l'a.
Mais si vous pouvez faire ça à domicile, ce serait génial aussi.
Extraordinaire.
Alors,
bien sûr que les trois points qu'ils ont pris contre Paris là, où ils en ont profité. Ça va faire la différence dans la course à la Ligue des Champions. Et après, comme elles disent Jen et Sarah, c'est vrai que en réalité, ils ont peut-être connu quelque chose d'un peu difficile parce que la saison a été dure à encaisser, une élimination en tour préliminaire. Ils avaient bien fini l'année dernière, comme l'a souligné Sarah. Donc faut encaisser ce truc-là et les voir arriver à la troisième place au tour préliminaire, ce serait pas choquant parce que même si on n'en parle pas. Ils ont quand même aussi un budget, des joueurs de qualité, mais en tout cas, ça va jouer sur la régularité, enfin, dans les confrontations. Je pense même pas les confrontations directes, ce sera les confrontations contre les plus petites équipes. Il faudra pas perdre de points, entre guillemets, bêtes.
Oui. Justement, les dernières minutes, mettez le feu. C'est Vivien qui nous écoute, il est sur le périphérique. Là, je crois qu'il est en train de mettre le feu sur le périphérique.
Un cheval,
hein. C'est pas qu'il est là. Ah, un cheval. Arrête.
Il m'a prêté. Du 18ème.
Je te laisse. Tu t'arrêtes.
Il te l'a prêté pour venir, c'est
ouais,
ça.
Giovanni. Ah, justement, Giovanni, il est toujours là. Ah, pour la caisse. Allez, une minute. Allez, on va l'appeler la minute parisienne. Que se passe-t-il du côté du PSG? Le visage, la saison prochaine. Abdel et toi avec Sarah. Sans oublier le coach Tolé et Gian. Ouais. On doit revenir avec nos invités. Mais non, c'est Vivien là qui klaxonne. Arrête.
C'est très compliqué de se prononcer. T'as l'impression que. Voilà, il y a une cassure, on l'a vu notamment avec les supporters. Donc, faut que Paris fasse entre guillemets nouveau visage l'année prochaine. Il y a des joueurs qui doivent qui doivent partir.
Voilà, Diane.
Après, potentiellement, ils doivent partir, ils doivent avoir du renouveau, mais ils sont tellement bien dans le club que c'est impossible de les.
Parce que t'as des joueurs, il y a un moment.
Alors, le coach est tollé.
Je le dis depuis plusieurs saisons.
Oui.
Même des Verratti, des Marquinhos, c'est un moment, faut être capable de se dire.
De partir.
On passe à autre chose. Ce n'est pas parce que ce sont des bons joueurs.
Ouais,
c'est la colonne vertébrale.
Je suis désolé,
Marquinhos, c'est très bon.
Ces mecs-là, ça fait 8 ans qu'ils sont là. Ça, c'est. Il y a une fatigue mentale. C'est toujours la même chose. On attend toujours le mois de février pour la Coupe d'Europe. Même pour eux.
Allez, attention, Fabacari, tu regardes de travers là.
C'est
pas bon. Attention, le PSG.
Ces mecs-là aussi, on n'en parle pas.
Le look qui va arriver.
Je te rejoins sur un point. C'est vrai que Marquinhos, Verratti sont des joueurs qui ont vécu la remontada, qui ont vécu des désillusions horribles, j'ai envie de dire, du Paris Saint-Germain. Et effectivement, mentalement, t'as l'impression qu'ils découvrent le truc. Maintenant, je suis désolée.
Alors.
Marquinhos, Verratti, c'est quand même la colonne vertébrale, à part quelques manquements.
Elle n'est pas d'accord, Diane.
Non, rapidement. Mais quand il joue, il est très bon.
Il nous reste 2 minutes. Allez, Diane, Abdel et nos invités, on va terminer avec eux.
Le problème du PSG, c'est pas les joueurs. Hein. J'ai l'impression surtout qu'ils sont tous schizophrènes dans ce club. Chaque année, c'est la même chose. En fait, chaque fin de saison, c'est le même bilan. Chaque fin de saison, on arrive sur les mêmes choses. Chaque fin de saison, on dit qu'il faut changer exactement les mêmes choses. Les joueurs, le staff. Il y a un moment, je crois que dans ce club, il faut vraiment mettre tout raser et reconstruire sur quelque chose
la
de
solution
plus solide.
De Diane, pour toi.
Dans l'idée, Abdel. Ils ont été aussi beaucoup, beaucoup trop loin pour moi dans le projet. Quand au bout de 10 ans, tu vois pas de résultat, je pense. Enfin, si au bout de 5 ans, tu vois pas de résultat, il faut peut-être réadapter ta stratégie. C'est dommage. Et je pense que Paris, avec tout l'argent qui.
Mais ça leur suffit.
Claude, une dernière chose. Avant tout, tout l'argent qu'ils dépensent à l'étranger, etc. Ouais. S'il y a un prix PSG en Ligue 1, il devrait payer le prix PSG en Ligue 1. Comme ça, les joueurs, pour moi, il y a déjà de la qualité. Ils seraient déjà adaptés au championnat.
Tard,
merci, Abdel.
Ah, ça compte, on sait jamais. Hein.
Allez, nos invités, Fabacari, Diatta, sans oublier Joël Kouadja, qu'on aimerait voir remporter, justement, ce combat, ce 6 mai 2022 du côté de l'Accor Hotel Arena. Et on le rappelle, c'est le 6 mai 2022. Point de vente habituel, c'est bien ça, Diane, et avec vous aussi, messieurs. En tout cas, on aimerait voir tous les auditeurs, les auditrices de Bord FM, du côté de Bercy, ça c'est sûr. qu'on peut vous souhaiter ou peut-être vous souhaiter à vous-même et peut-être des mots de réconfortant vers vos familles, vos sponsors, les personnes qui pensent à vous. Alors, comment on vous écoute?
Et ben, un appel à sponsors, ça pourrait être intéressant parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est compliqué pour les combattants. Donc si vous êtes un sponsor intéressé pour avoir votre nom sur un des maillots ou le short d'un de ces deux combattants lors du Bellator, contactez Beurre FM, on nous fera suivre les
Yacine
informations.
Yacine Amoré. Voilà, Yacine Amoré aussi.
Et ben, très bien, Yacine. Avec
Shoot
plaisir.
Africa aussi.
Shoot Africa, merci.
Ouais. Abakari, Joël, pour vous remercier aussi, peut-être un petit mot sur la fin de cette émission.
Merci à vous pour l'invitation. Et c'était nous le meilleur hein, pour la suite.
Eh ben, on essaye en tout cas. Et il faudra, bien sûr, merci. On vous le souhaite, Inch'Allah, comme on dit, la victoire pour vous deux.
Merci.
Hein, messieurs, un grand merci pour cette disponibilité de nous avoir rendu visite à Diane, à Sarah, sans oublier Abdel, le coach Tolé, tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, Giovanni, sans oublier aussi Yanis, à qui nous pensons. Voilà, il est ce soir, il écoute cette émission. Vous retrouvez, allez, de suite après Tam Sport, l'émission qui est Vanessa. Eh oui, Vanessa. Hein, Vivien, il est à son poste, il est à l'écoute.
Il attend que
Vanessa, 23h, 1h du matin. Et nous, on se retrouve dès demain. Bye bye, très belle soirée à toutes et à tous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 22h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.